Rencontre mondiale du logiciel libre Bordeaux 2010.
Bonjour à tout le monde, merci d'être venu. J'espère que vous n'allez pas être trop déçus par la présentation. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que il n'y a pas de slide et c'est une sorte d'essai, donc c'est un peu pour aussi savoir si effectivement une présentation sans slide c'est suivable et pas ennuyeux pour les gens. Donc à ce niveau-là, je serais content d'avoir votre feedback après. Je vous fais mes excuses de vous utiliser comme cobaye, mais bon. Deuxième chose pour laquelle vous pourriez être déçu, le titre est un peu accrocheur. Pourquoi les aveugles devraient être parano? Je suis pas sûr que c'est le titre dont j'avais vraiment envie pour cette présentation, mais c'était aussi un peu pour donner envie aux gens de réfléchir à deux thèmes que j'ai rarement vu associés. Cécité, c'est-à-dire le fait d'être aveugle, et sécurité, c'est-à-dire vous savez ce que c'est, on est dans la session sécurité. Alors un peu finalement cette présentation, ça va être quoi? Ça va être un peu un catalogue à la Prévert de réflexion sur qu'est-ce que ça implique d'être aveugle sur notre sécurité informatique, sur la sécurité de nos données, de nos informations personnelles, etc. Voilà, c'est très informel, je vais vous donner quelques idées qui me viennent comme ça, et puis c'est plus une invitation au débat, donc il y aura sans doute pas mal de temps pour des questions. C'est très épars, la sécurité, c'est très, y a beaucoup de choses, c'était dur de faire un plan, mais je propose les deux parties suivantes. Première partie, on a besoin de s'assurer que toute l'information dont on a besoin est accessible à nous, qui ne voyons pas. Et deuxième partie, on a besoin de s'assurer d'une certaine discrétion, c'est-à-dire que personne n'est en train de nous prendre ou d'accéder à notre place à de l'information confidentielle. Donc dans la première partie, les besoins d'information accessibles, il y a plusieurs choses. La première, c'est saisie du mot de passe. Alors, vous savez tous qu'il y a des mots de passe partout, dans plusieurs contextes, et c'est quelque chose de délicat, parce qu'on a absolument besoin d'être sûr que ça y est, c'est bien le moment de taper le mot de passe. Et notamment, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne va pas le taper à un moment où l'écho écran n'a pas été désactivé, et taper son mot de passe en clair devant tout le monde qui regarde le rétroprojecteur. Ça m'est déjà arrivé, c'est pas terrible. Quand on voit, c'est évident, il y a écrit password à l'écran. Quand on voit pas, c'est pas du tout évident. Notamment si le lecteur le logiciel qui permet d'accéder à l'écran n'a pas été activé au préalable. Et c'est des situations qui se présentent, c'est-à-dire, par exemple, les premiers lecteurs d'écran graphiques qui ont existé sous Linux, comment on faisait pour savoir s'il fallait les activer ou pas? On disait, en gros, on le met dans le point bash RC de la personne. Donc ça s'active après le login, évidemment, c'est trop tard. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait son mot de passe à l'aveugle. Et donc il suffit que le gus d'avant il ait tapé un faux login et qu'on soit au password, et alors on tape le login au password, et puis après on tape le password au login, enfin bref, c'est la catastrophe. Il y a d'autres situations où c'est embêtant, ou en tout cas ça nous prive de certaines mesures de sécurité. Par exemple, on pourrait mettre un mot de passe dans le BIOS, mais non, on ne peut pas, puisqu'il n'y a rien qui nous permet de dire que ça y est, c'est le moment de taper le mot de passe. Peut-être on pourrait le faire biper, je ne sais pas, mais à ma connaissance, ça n'existe pas. Et pareil, dans le bootloader, on pourrait avoir envie de taper un mot de passe, d'en mettre un, mais c'est pareil, c'est pas simple. C'est plus vrai maintenant, en fait, c'est moins vrai, parce que, par exemple, grub2, on peut le faire biper. Donc on sait que ça y est, on est dans le menu. Mais faudrait voir, j'ai pas regardé si le bip intervient au moment où on peut taper le mot de passe, ou bien après, quand on arrive dans le menu. Autre point pour cette histoire de mot de passe et un peu plus général de sécurité, c'est les logiciels de lecture d'écran. Eh ben, ça doit jamais planter. Et ça, c'est très dur à faire. Non seulement il faut pas que ça plante, mais il faut que ça démarre le plus tôt possible et quoi qu'il arrive. Et ça, c'est pas facile. Donc, par exemple, dans Debian. Mario, qui maintient le paquet BRLTTY, qui est le lecteur d'écran, il a bien fait les choses, on peut l'embarquer dans le initramfs, mais c'est pas toujours le cas, et il faut pas du tout penser que le lecteur d'écran ça se démarre à la fin, parce que d'une part le boot peut mal se passer, et donc dans ce cas là on n'a pas accès à l'information et c'est frustrant, Et d'autre part, même quand ça se passe bien, c'est stressant en fait. C'est-à-dire, imaginez par exemple que vous allumez votre ordinateur, et puis on vous bande les yeux pendant le boot, et vous devez attendre sans savoir si ça va effectivement booter ou pas. Bah franchement, il y a des fois, c'est stressant. Surtout s'il y a un FSCK qui commence à se faire, bon, pas terrible. Autre chose qui pose des problèmes au niveau de la sécurité, c'est les CAPTCHA et les claviers virtuels. Donc ça, les CAPTCHA, c'est plus... Enfin, le mot de passe, c'est quand on veut prouver qu'on est nous. Et les CAPTCHA, c'est quand on veut prouver qu'on est un humain. Mais dans les deux cas, c'est problématique, quoi. C'est le même problème. On peut pas déchiffrer les CAPTCHA. Donc ça pose des problèmes. Il existe maintenant des services où... on peut envoyer ces CAPTCHA par internet à des bénévoles qui sans savoir d'où vient le CAPTCHA, voient l'image, tapent le texte qui est renvoyé à la personne, mais c'était quand même un peu bizarre, puisqu'au départ les CAPTCHA c'était fait pour empêcher les bots, et puis maintenant on a des humains qui déchiffrent les CAPTCHA. Alors on peut imaginer des spammers qui envoient leurs CAPTCHA à des braves bénévoles qui les déchiffrent, enfin je sais pas. Bon. Pardon ? Ça se fait quoi ? Ouais, mais c'est ça, c'est ce que je dis. On peut se demander si c'est bien, quoi, si c'est la bonne façon de résoudre le problème. Ouais. Ensuite, il y a les claviers virtuels. Si vous suivez votre compte en banque sur Internet, vous avez sans doute connaissance de ça. Alors là, pour le coup, pour la sécurité, à mon avis, c'est vraiment pas terrible, parce que soit c'est inaccessible et on peut pas l'utiliser, soit c'est accessible et alors faut s'imaginer la synthèse vocale qui prononce les lettres que vous êtes en train de taper et diffuse du coup votre mot de passe à tout votre entourage. C'est très intéressant. Bon, je sais pas trop si c'est vraiment pertinent par rapport à un mot de passe simple, finalement c'est peut-être mieux. Donc là je termine ma première partie, ma première liste. Et puis on passe à la deuxième, qui est faire en sorte que l'information ne soit pas accessible aux gens qui n'ont pas à y avoir accès. Donc en gros, là on parle plus de confidentialité en fait. Alors première chose, il est très possible quand par exemple on travaille dans un environnement ouvert, que quelqu'un regarde l'écran qu'on est en train d'utiliser et qu'on ne le sache pas. Du coup, on a besoin de pouvoir éteindre l'écran. Et c'est bien d'y penser. Et c'est une fonctionnalité qui n'est pas nécessairement codée, enfin implémentée par le développeur. Parce qu'on se dit, mais si on est à la console, qu'on tape au clavier, il ne faut surtout pas éteindre l'écran, c'est ridicule. Non, c'est pas ridicule. Pour nous, c'est vraiment intéressant. Et en plus, ça permet de faire des économies d'énergie quand on est sur batterie, ce qui est quand même pas négligeable. Ensuite, on a aussi, quand on tape son mot de passe sur un clavier, on doit faire attention au fait que personne ne regarde nos mains quand on est en train de taper. Ça m'est jamais arrivé qu'on reconnaisse mon mot de passe quand je tapais, mais par contre, pour mon code de carte bleue, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise « Dis donc, ton code, c'est bien !» Et puis bon, voilà, donc faut faire attention à ça. Une chose qui protège un peu de ça, c'est les claviers à accords. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Normalement, traditionnellement, c'est une lettre égale une touche. Sauf que en braille, les lettres, c'est des combinaisons de points. Et il existe des claviers où on a une touche par point. Et donc, quand on veut taper une lettre, on tape plusieurs touches en même temps. Du coup, nos doigts ne bougent jamais. Ce qui est très confortable, hein. Vraiment, c'est un peu dans l'idée Beppo, mais encore plus confortable. Nos doigts ne bougent jamais. Voilà. Et ça, ça, à mon sens, ça protège, parce que du coup, évidemment, des accords, c'est beaucoup moins facile de voir ce que c'est. Le point suivant, c'est qu'on doit faire attention à ce que personne ne puisse prendre le contrôle du terminal braille. Donc ça, c'est lié au fait que quand on branche un terminal braille à un ordinateur, il y a un logiciel qui permet de voir ce qu'il y a sur l'écran et qui l'envoie au terminal braille bout par bout. Et ben dans un système Unix, en général, ce programme de lecture d'écran, il est exécuté en route, puisqu'il a besoin de ça pour avoir accès à l'écran. Donc c'est un programme extrêmement sensible, à la fois parce qu'il permet de prendre le contrôle de la machine, et à la fois parce que comme... comme il permet de prendre le contrôle du clavier Braille, il peut, on peut, si on arrive à prendre le contrôle de ce programme, empêcher les personnes aveugles d'utiliser leur ordinateur. Alors on pourrait dire oui, mais c'est déjà le cas avec le clavier et l'écran. Pas tout à fait, parce que le clavier et l'écran, ils sont gérés au niveau noyau. Donc c'est même pas le même, comment dire, le code qui gère ça est en mode noyau par rapport au processeur. Donc c'est beaucoup moins vulnérable. Alors que là on parle de choses qui tournent en mode utilisateur, donc peut-être plus facile à attaquer et plus vulnérable. Donc on a besoin de faire attention à ça. Bien sûr, on a aussi besoin de protéger le terminal physiquement. On ne faut pas qu'il soit volé, parce que c'est vraiment... En fait, le terminal Braille, pour quelqu'un qui ne voit pas, c'est central. C'est vraiment... finalement, par exemple, moi, je mets beaucoup plus de soin à choisir mon terminal Braille que mon ordinateur portable, parce que voilà, c'est mon terminal Braille, c'est là où il y a le clavier, l'écran. Enfin, on a besoin de ça. Un autre point qui peut être intéressant pour les personnes qui ne voient pas, c'est les programmes qui permettent de locker la console. Alors vous connaissez peut-être tous Xlock, qui permet de locker les serveurs X quand vous vous éloignez de votre machine. Il faut savoir qu'il y a aussi Vlock qui permet de locker le terminal, enfin la console, toutes les consoles. Donc ça, pour moi, c'est fondamental. Dès que je m'en vais, je lock. Et puis... c'est vraiment un catalogue à la Prévert, hein, j'avais dit. Hein, j'ai essayé de trouver un plan, mais j'ai pas du tout réussi. Donc je vous fais des excuses pour ça, mais je sais pas. J'ai pas trouvé de plan. Le point suivant, c'est quand même un avantage qu'on a, c'est que l'affichage Braille est dur à suivre. Donc, par exemple, même si vous êtes à côté de moi maintenant, a priori, vous aurez du mal à voir ce qu'il y a sur ma plage Braille. Et ça, c'est un avantage. Ben voilà. Ça, c'est de la sécurité par offuscation, c'est bien aussi, voilà. Et puis, ouais, ça marche bien. Hein. Et puis, donc, dernier point, mais je l'ai déjà un peu dit, les claviers à accords qui nous protègent, puisque on ne peut pas voir ce qu'on tape, même hors de contexte des mots de passe, voilà, on ne peut pas voir. Et puis, donc le dernier point que je voulais discuter, c'était le problème de la confiance. Rappelez que la sécurité, c'est pas quelque chose d'absolu et qu'on est bien obligé de temps en temps de faire confiance à des gens, à des situations. Pour prendre un exemple hors contexte informatique, on doit faire confiance aux gens qui nous montrent le distributeur de cartes bleues pour être sûr que c'est bien un vrai et que c'est pas un faux. Donc voilà. En conclusion, quand on voit pas, il y a des questions qui se posent, qui ne se posent pas quand on voit. Et pour les résoudre, on a absolument besoin que tout soit accessible le plus possible pour que on puisse accéder à l'information de manière autonome. Donc, d'où l'importance de développer l'accessibilité à tout niveau, dès le BIOS si possible. Donc voilà. Ben, merci beaucoup. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues.